Caroline Giron-Panel est ici. Vous êtes chartiste, moderniste, mais passionnée de punk. Et donc, vous avez choisi de nous parler, là, de nous amener sur le territoire des comics et de la bande dessinée, ce qui va nous permettre d'élargir encore notre vue. Et l'intitulé de votre communication est la suivante. « Look out, here comes the Spider-Man ». Punk, comics et bande dessinée. À vous pour 15 minutes.
Merci. Alors avant tout, je dois remercier Luc et Solveig de m'avoir sorti de mon 18e siècle. C'est assez rafraîchissant de travailler sur ce genre de sujet. J'avais prévu de commencer par Madame Figaro, parce que vous ignorez peut-être que Luc et Solveig ont participé au numéro spécial vacances de Madame Figaro en juillet dernier. Mais je me suis dit qu'on allait plutôt commencer en musique. X-Ray Specs, ici chanté par les Fat Beavers, un groupe de punk parisien bien connu de ceux d'entre vous qui ont fréquenté la miroiterie, avec en special guest Jean-Christophe Menu au Festival d'Angoulême en 2009. Donc c'est un lien tout trouvé entre punk et BD. Et d'ailleurs, Menu lui-même s'en est expliqué à Rock'n'Folk qu'il a répondu aux journalistes qu'il interviewait sur « Quel lien faites-vous entre punk et BD ?» Je cite « Les deux s'appellent contre-culture tout simplement ». Il faut les découvrir par soi-même, ces deux sphères m'intéressent. Parfois, elles se rejoignent, comme chez Trambert et Jeannot à l'époque de Métal Hurlant. À chaque étape de la musique, il y a un renouveau graphique qui fait sens avec tout ça. Donc, s'il y a bien un lien entre punk et BD, il doit être possible de dire sans hésitation qu'une BD est punk ou ne l'est pas. En clair, on doit pouvoir dire ça, c'est punk, et ça, ça ne l'est pas. Donc, il s'agit. Qu'est-ce qui permet de qualifier une BD de punk ? C'est une question difficile parce que c'est un champ de recherche nouveau, ce qui pose le problème avant tout de définir un corpus. Problème d'autant plus épineux qu'il y a de grandes différences entre l'Europe, ce qu'on appelle traditionnellement la BD franco-belge, les comics américains et l'ensemble des bandes dessinées asiatiques qu'on regroupe commodément sous le terme de manga. Pour la communication d'aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer exclusivement sur la BD dite classique, c'est-à-dire sur les albums publiés, qu'il s'agisse de BD ou de romans graphiques, sans m'intéresser aux fanzines ni aux magazines. Donc je ne parlerai pas de Viper, d'autant plus que la communication suivante va y être consacrée. Je parlerai quand même un peu de Métal Hurlant, parce que je ne peux pas faire l'impasse dessus. Mais le cœur de mon propos, c'est vraiment les albums de bande dessinée. Et puis j'ai choisi aussi de me concentrer sur la bande dessinée française. En réalité, c'est assez difficile de déterminer ce qu'est une BD punk. C'est plus facile de déterminer ce qu'est une BD non punk. Alors en théorie, c'est plutôt une BD mainstream qui va être publiée par un gros éditeur avec une grande diffusion destinée au grand public qui va éventuellement user jusqu'à la corde une recette qui marche avec un scénario éculé ou attendu. Souvent, c'est une BD qui a un format classique de BD franco-belge, un grand A4, entre 44 et 48 pages, une couverture cartonnée, un découpage en cases régulières, c'est-à-dire ce qu'on trouve chez Astérix, les Schtroumpfs, ce genre de choses. A contrario, une BD punk va se définir le plus souvent par son appartenance à la mouvance underground, voire DIY. Elle va être diffusée par une petite maison d'édition. Elle va s'adresser souvent à un public d'amateurs, avoir un scénario qui part un peu dans tous les sens. Souvent un format inhabituel, un petit format avec une couverture souple parce que c'est plus simple à faire et que ça coûte moins cher. On trouvera pas de découpage strict des cases, souvent du noir et blanc, et un graphisme qui lui-même va souvent se rapprocher de l'iconographie des flyers, des affiches ou des pochettes de disques, en tout cas faire preuve d'une certaine liberté de trait. C'est pas systématique, mais en général c'est comme ça que ça se présente. Souvent, mais pas toujours, la BD punk est fournie avec une playlist parfois avec des flyers annonçant un concert ou un festival, parfois avec un CD. Et puis, elle peut avoir évidemment un thème punk, qu'il s'agisse de musique ou non d'ailleurs. Et enfin, son auteur lui-même peut venir de la scène punk. Alors c'est le cas de Manu Larsonnet, sur lequel je reviendrai, de Kent, de Starshooter, mais aussi de Fred Bertrand, le Lord Fester des Washington Deadcast, ou de Cromwell, de La Bonne, la Brute et le Truand. Donc c'est un cas intéressant parce que La Bonne, la Brute et le Truand, c'est à la fois le nom d'une BD qu'il publie et le nom de son groupe. Ici, vous le voyez chantant l'un des tubes de ce groupe enculé. On trouve aussi ce lien entre dessinateurs et musiciens hors de France. Je vais vous citer juste le cas de JP, qui est le premier auteur de bande dessinée italien à être nominé et avoir vaincu d'ailleurs, à avoir gagné le prestigieux prix Strega, l'un des plus importants prix littéraires en Italie. Et il a aussi été le chanteur fondateur du groupe punk Soviet Sex, qui chantait en yaourt, c'est-à-dire en faux anglais. Évidemment, quand tous ces éléments sont rassemblés, on n'a aucun doute sur le fait que l'objet qu'on a devant soi est bien une BD punk. C'est le cas, par exemple, pour Le Renard. C'est une BD punk dans la forme, par son graphisme, par son format, par sa distribution underground. C'est aussi une BD punk dans le fond. Elle est subversive avec humour. Vous avez ici la reproduction de la deuxième page de couverture avec un texte de loi qui explique que toutes les publications pour la jeunesse ne devront pas présenter sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, etc., ce que fait évidemment cette bande dessinée. C'est une BD ouvertement anti-système. Son héros, le renard, est un rebelle qui vit dans un monde post-apocalyptique en volant des vinyles qui sont devenus à l'époque une denrée prohibée. Et puis, c'est une BD qui est étroitement liée à la scène musicale punk. Elle est fournie avec un CD, avec des flyers, et de nombreux groupes de musique punk sont cités dans cette BD. Vous en avez ici quelques exemples. Cannibal Corpse, Mayhem, Comintern Sect, Camera Silence, etc. Donc dans ce cas-là, on a évidemment affaire à une BD punk. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus difficile de définir si une BD est punk ou pas. Pourtant, les liens entre la BD et le punk sont anciens. Alors, si on fait un petit voyage dans le temps, on verra qu'une bonne partie des auteurs de BD punk, notamment ceux publiés dans Metal Hurlant à la fin des années 70, se réclament des comics américains, et tout particulièrement de Robert Crumb et de son célèbre Fritz the Cat. Donc, c'est une BD publiée dans le magazine Help entre 1965 et 1972, donc on ne peut pas dire qu'elle est punk en tant que telle. Mais l'esprit est bien là, à la fois à travers la diffusion underground des strips, qu'à travers le personnage du chat lui-même, érotomane, qui profite de son statut de musicien pour dévorer ses groupies au sens propre du terme, comme vous le voyez sur le strip à droite. C'est aussi le premier film d'animation tiré d'une BD qui a été classé X aux États-Unis. Donc ce côté anticonformiste, ce goût pour la provocation, se retrouve chez bon nombre de dessinateurs de BD de la fin des années 70, notamment chez ceux qui participent à Metal Hurlant. Prenons Jeannot et Trembert, par exemple, qui étaient cités tout à l'heure par Menu. Ce sont les créateurs de Kebra, un raloubar de banlieue parisienne, chanteur du groupe Les Radiations. Donc son look fait plutôt penser à du rockabilly, mais l'auteur le situe entre les Ramones et les Clash, et il écrit pour eux des chansons mémorables comme ce fantastique « Mon t'es pas zénaze ». Jeannot invente aussi un autre groupe, le groupe Stalag 17, clairement punk, à la fois dans son look, dans sa tenue scène et puis certainement dans sa musique. Dans Metal Hurlant, on trouve à la fois des BD de forme punk dans leur graphisme, dans leur anticonformisme, mais aussi des BD sur le punk, qui pourtant ne le sont pas dans leur forme. On pense ici évidemment à Serge Clair, l'un des représentants français de la nouvelle ligne Clair en BD. Ces sujets sont toujours rock'n'roll, parfois punk, comme ici à droite pour la légende du rock'n'roll Panic Punk en 1984, mais son graphisme ne l'est pas. Ce qui est intéressant, à mon sens, chez Metal Hurlant, c'est que c'est une revue qui se trouve à la croisée de plusieurs contre-cultures. Outre le punk et la BD, on y trouve évidemment de la science-fiction, puisque la revue a été créée au départ pour publier de la BD de science-fiction. C'est donc un média jeune qui s'adresse aux jeunes, un média anticonformiste qui s'adresse aux amateurs, amateurs de BD, amateurs de punk, amateurs de science-fiction, et qui rejette le mainstream autant en musique qu'en BD. L'explosion de la musique punk en France en 76-77 va de pair avec un formidable renouveau de la BD irrévérencieuse, provocatrice et qui cette fois s'adresse aux jeunes adultes et plus aux enfants. C'était pas le cas auparavant. Le plus souvent, ce sont des BD qui sont publiés dans des magazines qui ont pignon sur rue, Pilote par exemple, dans lequel on trouve L'Osier et ses tranches de vie, dont une est consacrée au punk, ou Fluide Glacial qui va publier les dessins de Franck Margerin. On trouve aussi à cette époque-là de vrais albums de BD, souvent chez des éditeurs confidentiels, et il y a un lien entre le magazine de BD et la publication d'albums chez des éditeurs underground. L'exemple de Marc Caro l'illustre. Vous avez ici des strips extraits du numéro spécial rock de Metal Hurlant en 1979, dans lequel on voit le groupe Zyklombé Zombie Junior, créé par Marc Caro, qui chante son morceau « Chaud les moignons ». Marc Caro publie aussi, quelques années plus tard, deux albums, Tot et In Vitro, chez des éditeurs assez confidentiels. On trouve le même phénomène hors de France, en Espagne. Max publie dans la revue El Vibora, puis chez La Cupula, une série intitulée Peter Punk, donc qui représente Peter Pan en punk violent et obsédé sexuel. Tandis que l'affreux capitaine Crochet et ses pirates sont des amateurs de rockabilly, les Indiens des vieux hippies, les sirènes des adeptes du bondage, Clochette est une punkette, Wendy une prostituée, les enfants perdus des drogués. Donc ça, c'est pour moi vraiment l'archétype de la BD punk. Et puis, il y a des références transparentes à la musique punk au sein même de la BD. Ici, par exemple, une référence évidente au Clash. Au début des années 80, le mouvement punk continue d'inspirer les auteurs de BD qui s'en emparent ou le dénoncent, parfois de façon jubilatoire, comme Gottlieb, qui met en scène un jeune Français rebelle intoxiqué par les partisans de l'anti-France qui dissimule sous son oreiller un émetteur de musique punk pour le transformer en être dégénéré et décérébré. Mais heureusement, Super Dupont intervient et parvient à remettre le jeune homme sur le droit chemin de la France en lui imposant une cure de RTL et d'Europe 1. Et vous avez ici le défilé des gloires de la chanson française de Maurice Chevalier à Claude François en passant par Annie Cordy. Donc, avec la fin de Metal Hurlant en 1987, on rentre dans une décennie de transition avant l'émergence de la nouvelle BD au début des années 2000, notamment grâce à l'association. Les fondateurs de cette maison d'édition, Jean-Christophe Menu en tête, ouvrent une nouvelle voie pour la BD hexagonale. Marquée par un fort renouvellement des formes, ce sont des auteurs qui s'intéressent à Lou Bapo, l'ouvreur de bande dessinée potentielle, qui cherche les limites formelles de la bande dessinée. Il publie régulièrement des albums de BD qui s'éloignent de l'album traditionnel de la BD franco-belge. Ce sont des albums en petit format, souvent en noir et blanc. Et on trouve notamment à l'association Jean-Christophe Menu qui publie par exemple en 2008-2009 trois petits albums intitulés Log Groove Comics, véritable déclaration d'amour au vinyle, puisque le log groove, c'est ce sillon sans fin qui boucle chaque face d'un vinyle. Et d'ailleurs, je me suis demandé si le log groove de l'album de Strychnine qu'on nous a remis avait été enregistré. Il faudrait que Luc me le dise. Donc, c'est une déclaration d'amour au vinyle et à la scène rock underground. Le lien entre la BD et la musique est revendiqué dans ces albums. Il s'agit d'une BD musicale, clairement punk dans sa forme, qui cite de nombreux albums, plus ou moins inconnus, et qui relate des expériences de concerts et de festivals rock. Et l'auteur lui-même souligne à plusieurs reprises les similitudes entre ces deux produits de la sous-culture ou de la contre-culture. Ici, quand il compare l'évolution du style des Beatles et celle de Franquin, ou encore ici, lorsqu'il compare la reprise de la scie d'Afrique Simone Ramaya par les Berruriers Noirs à l'évolution de la BD depuis Kena et le Scramustache jusqu'à son propre style de BD. À l'association, on trouve aussi Matt Conture, autre dessinateur de BD amateur de punk, qui dessine d'ailleurs des affiches et des pochettes de vinyle. Vous en avez un exemple ici en haut à gauche. Il participe à des fanzines punk, il fait des concerts dédicaces avec des groupes de punk, ici Brain Sushi en 2014. Et dans ses BD, il se met lui-même en scène pogotant dans des concerts de punk. Vous avez ici une case extraite d'Autopsie d'un mort vivant, publiée à l'association en 2000. Si l'on fait un petit tour d'horizon des albums de BD qu'on pourrait qualifier de punk parus ces dernières années, on trouve un certain nombre de points communs. Il s'agit généralement d'albums courts, de petits formats publiés chez des petits éditeurs. Si le sujet est punk, le graphisme ne l'est pas toujours. Vous avez ici deux exemples, les identités remarquables de Benoît Barral et Ketchup Boy de Gilles Poussin et Guillaume Berthelot, qui n'ont clairement pas un graphisme punk. On est ici dans la tradition de la ligne claire, mais ces albums sont intéressants car ils évoquent tous les deux l'impact du punk sur des jeunes gens de province. On en a déjà parlé depuis hier. Les identités remarquables s'intéressent à la scène punk à Orléans, Ketchup Boy à l'émergence du punk à Nantes. Et puis on y trouve quelques pages savoureuses qui reprennent les grandes lignes de la BD punk, la naissance d'une vocation, la réaction des proches, la relation avec les drogues, etc. On trouve aussi d'autres exemples intéressants du côté des mangas ou des comics. Vous avez ici un manga coréen, Dorothy Band, qui est une réinterprétation de l'histoire du magicien d'Oz, dans laquelle Dorothée devient la chanteuse d'un groupe punk dont la chanson phare est Aïe 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 ouïouïouï. Et puis, du côté des comics, Punk Rock et Mobile Home, qui met en scène Otto Baron, un lycéen binoclard souffre-douleur de ses camarades, qui devient The Baron lorsqu'il monte sur scène pour chanter les classiques des Ramones, des Clash ou des Plasmatics. En France, en 2007, François Mingova Les Chats publie Les Allumeuses, un récit assez déjanté qui met en scène deux jeunes punkettes égarées parmi un casting d'apprentis chanteurs dans une sorte de Star Academy sponsorisée par Michel Sardou. Et ce qui me semble intéressant, c'est le fait que cette BD soit publiée chez KSTR, un éditeur qui, je cite, « se veut l'équivalent graphique et narratif du rock d'aujourd'hui, vif, rapide, énergétique, parfois provocateur. KSTR accueille dans un format unique 17-25 cm, donc on retrouve le petit format, toutes les bandes dessinées de création inspirées par le désir de bouger et de faire bouger. Il me semble qu'on a là un bon exemple de récupération mainstream de la BD underground dans le but de faire de l'argent. On est ici chez Casterman. » Et puis je vais finir avec l'exemple de Manu Larsonnet, qui me semble intéressant parce que c'est un auteur de BD qui est devenu mainstream. Je pense qu'une partie d'entre vous a lu Le Retour à la Terre ou Le Combat Ordinaire. Mais il n'a jamais renié son héritage punk. C'est quelqu'un qui vient réellement de la culture punk. Il a dit en interview « J'ai fait beaucoup de musique punk rock pour épater les filles, mais comme les filles ne s'évanouissaient pas, j'ai fait du dessin, bien qu'elles ne s'évanouissent toujours pas. Après, j'ai commencé à vieillir. » Donc on a aussi ici le lien entre la BD, le punk comme média jeune, et puis qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit. Les BD de Larsonnet sont punk de différentes façons. On trouve des citations éparses au sein de BD traitant d'autres sujets. On voit ces personnages porter des casquettes ou des t-shirts avec des noms de groupes de musique. Ici, vous avez aussi l'un de ses premiers albums publiés chez Fluide Glacial, Les super-héros injustement méconnus, que je vous conseille fortement d'ailleurs, qui est signé Larsonnet, tout simplement, et avec une petite étoile noire. Il s'en est expliqué sur un blog d'amateurs en disant que c'était l'étoile noire de l'anarchie, qu'au début, il signait comme ça, et puis qu'après, il avait grandi, donc il s'était mis à signer Manu Larsonnet. Donc là, vous avez une BD signée Manu Larsonnet, Les Crevaisons, qui est une BD pas du tout punk dans sa forme. On voit, c'est de la BD franco-belge classique, un album, 48 pages, découpage en cases traditionnelles, en couleur, couverture cartonnée. Par contre, elle est tout à fait punk dans le fond. Il s'agit d'une histoire rocambolesque du soldat inconnu, comme l'indique le sous-titre. Donc le personnage principal, Ebenezer, est un gardien de cimetière qui vit seul au milieu des morts et qui va rencontrer la réincarnation du soldat inconnu. Donc ce personnage, Ebenezer, écoute de la musique punk. Et évidemment, ici, il y a un jeu avec le No Future, notamment dans cette page, puisque quand il sort de chez lui, il se rend compte qu'il n'y a plus aucun être vivant autour de lui et qu'il vit dans un monde totalement peuplé de morts. Ce personnage écoute un certain nombre d'albums classiques de la culture punk. Vous les avez ici représentés. Larsonnet les a fait des copies des albums d'Agent Orange ou de Bad Religion ou des Sex Pistols. Et puis, l'album est livré avec une playlist qui reprend tous les albums cités dans l'album et parmi lesquels on trouve aussi du punk français, notamment Les Rats, avec ici ce morceau La Fleur au Canon. Et puis, on trouve aussi Parabellum, qui n'est pas cité dans la playlist, et qui sert de moyen mnémotechnique à Ebenezer pour se rappeler où il a rangé son pistolet. Donc, après cet exemple de BD, il me semble que la BD la plus punk de Larsonnet est celle qui ne parle pas de punk. C'est celle qui lui a permis d'accéder à la consécration, puisqu'il a obtenu le prix du meilleur album à Angoulême avec l'un de ses volumes. Il s'agit de Blast. C'est un roman graphique, à vrai dire, plus qu'une bande dessinée, qui présente un mélange de techniques. On y trouve des cases traditionnelles et puis aussi un découpage comme ça en tiers, en noir et blanc. On y trouve des collages avec un mélange de techniques. Ici, vous voyez le personnage lire une BD avec une forme de mise en abîme, l'histoire de Jasper l'ours bipolaire. On y trouve des collages un peu plus étonnants et effrayants. Ici, un collage pornographique. Et en fait, cette BD a un propos très noir. Le personnage principal, Polza, est un SDF obèse bipolaire, un assassin violent, qui quitte la société dans l'espoir de retrouver le Blast. Alors, ce Blast, j'ai essayé de le définir et j'étais très heureuse tout à l'heure d'entendre la performance qui nous a été donnée, puisque dans le texte d'Ariane Maier, il était dit que la chanson punk proposait une euphorie soudaine, immédiate, inutile, l'unique maintenant de l'urgence, et ça me semble parfaitement définir le blast, qui est représenté dans cet album par des dessins d'enfants, des collages de dessins d'enfants. Donc, cette BD ne cite pas le punk, mais elle donne des punks en creux une image très négative, puisque vous voyez ici deux personnages de la BD, les frères Illich et Vladimir, sont présentés comme des punks, hein, avec la crête, le perfecto, et ils agressent très violemment Polza, sur deux pages qui sont particulièrement noires. Il me semble aussi que c'est un album, une série d'albums qui illustre de façon magistrale le No Future de Sid Vicious, des Sex Pistols, puisque le dernier album s'intitule « Pourvu que les bouddhistes se trompent ». Et c'est ce que dit Polza au moment, lors des dernières cases, lorsqu'il se suicide en disant « J'espère ne pas me réincarner, pourvu que les bouddhistes se trompent ». Donc, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est par cette série que l'auteur a accédé à la consécration au moment de la sortie du tome 4. Un chroniqueur de France Inter a dit « C'est presque un livre », en parlant de cet album. Donc, ça me semble illustrer le fait que la BD, comme la musique punk, reste aujourd'hui considérée comme une sous-culture. Et j'aurais voulu finir en vous faisant écouter, en vous faisant regarder ce clip des Ramones, parce que si le punk inspire la BD inspire aussi le punk. Et ça me semble une bonne illustration, mais je crois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. On va s'arrêter là. Non, vous voulez écouter les...
Non, j'ai
dit oui. Mettons les Ramones.
Yeah, we thought the Spider-Man. This is strong, this is bold. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, action is his reward. Good gal, here comes Spider-Man. Look out! Bye.